Hit Montréal du jeudi avec Kitty Lady Special K et son équipe tous les jeudis de 16h à 17h30 sur les ondes du 102.3 FM.
Ah, bonjour tout le monde. J'espère que vous portez bien ce bel après-midi du jeudi 29 janvier 2015. Alors, il est présentement exactement 16h et vous écoutez Planète Montréal du jeudi avec moi-même, Kitty, alias Lady Special K. Je suis toujours aussi bien entourée comme à chaque jeudi. Et ce jeudi, ben, je vous informe que notre émission aura la durée normale, c'est-à-dire qu'on vous accompagne jusqu'à 17h30. Madalina, Kate, Andréane, Pierre, comment allez-vous?
Ça va bien.
Ça va super bien.
Comment la semaine se passe?
Ah. Quelque peu mouvementé, mais ça se passe bien. C'est une belle semaine. Il fait moins froid dehors, j'ai remarqué.
Oui. Puis j'ai pris le temps de relever la température. Moins 9 degrés Celsius, température ressentie, moins 15. Ça sonne comme les tropiques.
Ah, super.
Il faut pas se plaindre, il faut toujours rester reconnaissant. Alors aujourd'hui, on vous a préparé un programme quand même assez intéressant. Comme à tous les jeudis, on parle d'actualité. Kate, tu nous reviens avec une chronique santé, toujours aussi pertinente et surprenante. On a tous très hâte d'entendre de quoi tu vas nous parler. Andréane,
oui.
La semaine dernière, ça s'est passé tellement vite.
Qu'on n'a pas eu le temps de faire la chronique.
Donc, spéciale quand même. La semaine dernière, on recevait un étrange, un pionnier du mouvement hip-hop ici au Québec qui nous arrivait avec des bonnes nouvelles. Donc, on remet cette semaine ta chronique. Donc, on a très hâte d'entendre ça. Et Madalina, tu as une surprise pour nous?
Oui, une bestiole.
Ah! On apprivoise?
Oui, qui voyage, voilà, et qui résiste à toute saison.
Bon. Et au courant des prochains 90 minutes, on a d'autres chroniqueurs qui vont se joindre à nous. Donc, restez là. Si vous voulez rentrer en contact avec nous, n'hésitez pas à le faire par les voies du téléphone 514-495-2597. Il y a toujours les réseaux sociaux aussi. C'est très accessible. Sur Facebook, vous pouvez nous trouver l'équipe sur la page de loungeurbain.com et vous pouvez toujours aussi nous envoyer des courriels à info@loungeurbain.com. Restez avec nous, on part tout de suite en musique avec DJ Licks qui nous a toujours fait une programmation musicale très intéressante, pertinente et surtout locale. Mon Dieu, qu'il y a du talent ici, il faut les écouter, il faut les découvrir. Donc on part en musique.
It's not always perfect, it never meant to be. With you, it's always worth it, and that's always how I feel. But when you tear my world apart, one more than I can give, not sure it's worth it. 'Cause if I did, I'd fake it. Will you still love me when I'm wrong? 'Cause all I need is someone who believes in me right now. And everything about you takes me home. And now you got me on the fence. Never thought I'd be so close to homeless. If I could bury all my faults 1,000 feet underground, let them burn right through the cold where they don't hurt you anymore. I would do it in a second, I would do it every time, but all of this is part of me to take or leave. All I want is your patience, so I can learn to love you better. I try, but you hate it. You shut me out 'cause I didn't get you. Remember that you hold my heart in the palm of your hand. Not sure you remember, 'cause if you did, you'd be tender. Will you still love me when I'm wrong? 'Cause all I need is someone who believes in me right now, and everything about you takes me home. Oh. And now you got me on the fence. Never thought I'd be so close to homeless. If I could bury all my faults 1,000 feet underground, let them burn right through the cold where they don't hurt you anymore. I would do it in a second. I would do it every time. All of this is part of me to take or leave. Maybe you'll find what you want. Falls 1,000 feet underground, let them burn right through the cold where they don't hurt you anymore. I would do it in a second. I would do it every time. But all of this is part of me to take or leave.
Ah, mon Dieu, c'était vraiment délicieux. Donc, c'était une chanson de El Rey, Take or Leave, and Believe It or Not. C'est une petite fille d'ici. Alors, c'est vraiment cool de pouvoir jouer de la musique d'ici. Donc, Kate.
Oui, salut ma belle.
Salut. Moi, j'aime ça dresser la table avec toi parce que tu nous viens toujours avec des surprises pour améliorer ou maintenir notre santé.
Oui, exactement. Ben, des chroniques santé, je trouve que c'est toujours valable. En fait, ça a sa place dans une émission de radio. En fait, généralement, j'apporte des sujets plus des éléments nutritifs à ajouter à notre diète. Mais cette fois-ci, j'aimerais plus parler de pourquoi consommer de la nourriture locale et c'est quoi la nourriture qui est en saison en fin janvier, début février. Donc, une des choses que j'ai remarqué, c'est qu'en faisant des recherches, ça n'arrête pas de dire comme quoi ça goûte meilleur quand c'est local. Je me dis, pourquoi ça goûte meilleur? Est-ce que c'est parce qu'on est narcissique? C'est quoi qui se passe? Mais j'ai compris qu'en fait, vu que c'est poussé d'une façon locale, il y a moins de temps entre le moment que c'est cueilli ou le moment que c'est dans notre assiette. Tandis que quand c'est acheté d'une façon très... Ben, ça vient des milliers de kilomètres d'ici, c'est cueilli avant que ça soit mûr.
Mm-hmm. Donc, généralement, ça mûrit durant le transport.
Exactement. Donc, c'est jamais... Ça perd des nutriments. C'est pas aussi frais, disons. Ça, des fois, c'est gelé. Des fois, c'est réchauffé. Ben, ça va réchauffer. On fait des gelées quand on le reçoit, là. Mais tu sais, ça arrive. Des fois, tu vas à l'épicerie puis tu te rends compte qu'il y a des bouts encore gelés ou d'autres un peu pourris. Mais ça arrive pas qu'on consomme de la nourriture locale. Donc, une autre chose aussi, c'est qu'il y a moins d'impact environnemental. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est moins, il y a moins de blessures sur le fruit ou le légume à cause du transport que ça a vécu pour se rendre jusqu'à notre assiette. Et la marchandise est plus sécuritaire, justement, pour les mêmes raisons. Il y a moins d'étapes du moment que c'est cueilli jusqu'à temps qu'on le reçoit.
Puis, j'aimerais rajouter sur l'impact environnemental. Ça doit pas être très sain, là, pour l'environnement. Tout ce pétrole qui est utilisé pour le transport, hein?
Exactement. Ouais. Donc, ça fait des carbon footprint, comme on dit. En fait, une autre chose que j'ai remarqué, c'est que si on consomme la nourriture locale, à ce moment-là, on encourage notre industrie locale, donc économique également. Et vu que le terrain est cultivé, ça ajoute des espaces verts à notre propre ville, à notre propre communauté. Ça crée une communauté et ça l'enrichit. Donc, c'est vraiment beaucoup d'attributs positifs. Les fruits et légumes qui sont en saison pour février, fin janvier, février, c'est les poires, les poireaux, les navets, les betteraves.
Prenez des notes, là.
Oui, mais si on peut faire un bon potage avec ça, c'est vraiment facile. Des carottes, des patates, des courges, toutes les sortes de courges. Puis les agrumes aussi, donc les mandarines, les tangerines, les citrons, les oranges, tout ça. Donc, pour ceux qui vivent à Montréal, en fait, j'avais fait des recherches pour savoir où est-ce qu'on peut acheter de la nourriture locale. Donc, un, c'est le marché Jean Talon, pour ceux qui sont déjà allés. Madalina, sûrement, là, c'est...
Oui, oui.
Elle se promène beaucoup.
Il y a les saucisses aussi, là-bas.
Oui. Local, pas local, ça se trouve. Le marché Atwater aussi. Puis aussi, une autre découverte, c'est les Organic Food Baskets. Donc, il y a beaucoup de fermes à l'extérieur de la ville, à Québec, qui font pousser leurs propres fruits et légumes, mais aussi qui ont leur propre élevage de bétail. Donc, à ce moment-ci, on sait exactement d'où ça provient. On fait une sélection directement avec les personnes qui font pousser leurs items. Et de là, à chaque deux semaines ou à chaque semaine, à chaque mois, on reçoit un bac rempli de nourriture qu'on a choisi avant directement avec la ferme qui le produit. Donc, je trouve que c'est une façon géniale, en fait, de supporter notre économie locale à Montréal et au Québec. En fait, c'est toujours quelque chose à ajouter et à considérer.
Est-ce que tu as des bonnes adresses pour nous? Là, j'ai envie, je t'écoute, ça suscite mon intérêt.
Ben en fait, oui, j'ai découvert plusieurs différentes choses. Un, c'est Cadet Roussel Farm, le Crépuscule Farm, Détroit-Pierre. En fait, ce que je vous inviterais à faire des recherches sur Internet, si vous écrivez simplement « Organic Food Basket », c'est comme un bac de nourriture organique, vous allez trouver une liste complète avec toutes les informations et les façons de les contacter pour pouvoir faire une sélection de nourriture qu'ils ont différentes locations où est-ce qu'ils déposent la nourriture. Donc, certains, c'est par exemple au plateau, d'autres, c'est plus dans Notre-Dame-de-Grâce. Mm-hmm. Et peu importe où est-ce que vous habitez, vous pouvez savoir quelle ferme fait des dépôts de nourriture à cette place-là pour ceux qui ne l'amènent pas directement à domicile, ce qui est quelque chose d'autre qui est vraiment génial à savoir.
Génial. Ouais. Mais donc, moi, dans mon temps, on m'aurait dit « cherche dans les pages jaunes ». Mais là, aujourd'hui,
on va sur Internet.
Google it!
Juste faire une petite parenthèse par rapport à ce que tu as amené, Kate. Je trouve ça vraiment super intéressant. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des produits faits ici, local. C'est des jus cru. Alors, c'est vraiment des jus faits à partir soit de légumes ou soit de fruits crus, là. Ça n'a pas été transformé ou quoi que ce soit. Et ça s'appelle Dose. Alors, je ne sais pas. Oui. Ça vient d'ici.
D-O-S-E?
Oui.
Ah, génial.
C'est super intéressant.
C'est à noter pour tout le monde.
Des bons plans pour ma viande, parce que moi, je suis carnivore, s'il vous plaît.
Carnivore, justement,
Ça se passe pas au marché Jean Talon, ça aussi?
Ça se passe au marché Jean Talon, mais justement, les fermes que je faisais comme suggestion pour la nourriture organique locale, ils ont du bétail. Donc, certains, c'est concentré en agneau, d'autres, c'est en bœuf, peu importe. Et ça, il y a moins de préservatifs, moins de chances d'avoir des aliments modifiés d'une façon organique, ben GMOs. Donc, c'est plus contrôlé. On peut demander à la personne comment vous l'avez fait pousser, exemple, ça, c'est des fruits et légumes. Bon, faire pousser des agneaux, c'est pas pareil, on s'entend, là. Mais donc, c'est ça. En général, c'est des choses à ajouter. Donc, il y avait des raisons derrière pourquoi on devrait commencer à consommer de la nourriture locale.
Il y a aussi des gens qui utilisent ce panier et ils se plaignent un peu parce que quand ils ouvrent, il y a juste une carotte, un concombre, un navet, et ils peuvent pas faire grand chose.
Mais je pense que c'est comme n'importe où. Il faut magasiner puis trouver le comptoir qui nous convient.
Ben, généralement. Exactement.
Ouais. Hey, merci beaucoup, Kate.
Ça me fait très plaisir.
C'est un bon pense-bête parce qu'on le sait tous, hein, qu'il faut manger local. C'est dit, redit et publicisé, mais c'est toujours bien de nous le rappeler, surtout à la veille du mois de février.
Maintenant, on a une idée un peu de c'est quoi la nourriture à consommer en février.
Voilà.
Où la trouver et pourquoi en consommer.
Super. Ben, Madalina, j'ai envie de faire un lien facile et niais.
Ma bête, il ne mange pas, ça.
Alors, tu voulais nous parler d'animaux apprivoisés.
Non, c'est juste une petite bestiole. Okay. J'aime beaucoup les hommes, les femmes.
Non, mais c'est parce que tu piques vraiment ma curiosité. T'as pas voulu me dire de quoi il s'agissait. Vas-y, le micro est à toi. On est tout oui.
Ah, ben alors, on commence avec une devinette, ça vous dit?
Oui.
Petit insecte de couleur brune envahissant, la taille d'un pépin de pomme, forme ovale, assez plate, se déplace à peu près à la vitesse d'une fourmi, n'aime pas du tout la lumière, a besoin de l'homme pour se nourrir.
Oh!
18 degrés, c'est sa température.
Ça a l'air dégueulasse.
Ouais. Puisque tu parles de ça, ça pue un petit peu.
Ça m'a coupé l'appétit.
Sa durée de vie est variable de quelques mois à un an. Elle dégage donc cette odeur. Et se niche principalement dans les matelas.
Ah, les punaises.
Alors, c'est qui cette bestiole?
Les punaises. Ça s'appelle
punaise,
quoi,
la punaise. Oui, c'est aïe, ça. Aïe. La punaise de lit, connue scientifiquement sous le nom de Cimex lectularius.
Ah, mais pourquoi tu nous parles de ça? On dirait que c'est plus la saison de, les saisons d'été où on en parle le plus.
Exactement. Mais j'ai vu récemment un article dans la presse. Et là, on parlait d'une alerte aux punaises dans une garderie. Et puisqu'on parle, comme tu disais, en général l'été, mais moi j'ai envie de parler aussi l'hiver, puisque c'est une bête qui vit tout le temps et qui voyage. Et donc, comme il s'agit d'une épidémie, parce que c'est quand même une épidémie à Montréal depuis quelques années, 5 environ, on devrait rester vigilant, je crois, et donc en parler. Alors, personne n'est à l'abri d'une infestation de punaises. Et sachez que ce n'est pas une question qui est liée à la pauvreté, hein, ou à la saleté. Et très courante avant la Seconde Guerre mondiale, la punaise de lit était à un moment donné en fait oubliée grâce à l'effet des insecticides. Mais depuis quelques années, elle est retournée en force en Amérique du Nord et chez nous ici, à Montréal. Et pourquoi ? Ben pourquoi ? Ben, il y a plusieurs raisons. Sachez qu'il y a une combinaison de facteurs comme l'augmentation de voyages à l'étranger, donc on voyage plus. Le changement plus fréquent de mobilier d'occasion entre les foyers, une meilleure résistance aux pesticides et globalement la baisse de vigilance de notre part. Et puisque la punaise de lit se propage rapidement et voyage, les autorités montréalaises ont pris des mesures. Et depuis 2011, sachez que l'intervention des gestionnaires des parasites est rendue obligatoire. Et donc, eux doivent rapporter toute intervention effectuée à Montréal. Et chez nous ici, existe en fait une cartographie de la punaise. Mais elle n'est pas rendue publique. Hein.
C'est trop discriminant. Wow. C'est sérieux, là. Mais là, c'est vrai. Parle d'épidémie.
Oui,
hein.
Oui, et les endroits touchés sont marqués et le type de traitement effectué. Et de la même manière, les autorités nous disent attention au recyclage de matelas et des meubles. Et les arrondissements distribuent gratuitement des sacs de plastique pour emballer ces vieux matelas et ne pas les laisser dans la rue et même les couper pour ne pas les utiliser. Mais voyons comment agit-elle, cette punaise.
Elle est sympathique.
Là, j'aime bien. Là, ça, préparez-vous. Alors, elle se nourrit entre 3h et 6h du matin, quand vous êtes bien dormi.
Quand on dort.
Exactement. Et quand elle intervient, en fait, elle est comme un détective finalement, parce que qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous injecte d'abord un anesthésiant pour vous rendre insensible à la piqûre. Après, il y a un anticoagulant pour s'assurer d'avoir une bonne provision de sang parce qu'elle mange pendant 15 minutes. Et alors, comment c'est-elle que nous, on dort, hein? Comment c'est-elle?
On ne sait pas.
Mais il fait nuit, donc elle aime pas la lumière, il fait nuit et nous on dégage beaucoup de chaleur.
Ben. Oh,
et donc elle sait qu'on dort et elle commence à faire son travail. Mais elle peut vous piquer plus que votre enfant ou votre conjoint si vous dégagez plus de chaleur. Donc elle aime bien les vibrations et le gaz carbonique. Et ces cachettes sont les fissures dans le plancher, les meubles, les murs, les rebords du matelas. Mais elle n'aime pas trop la cuisine et la salle de bain. Et pour arriver à l'âge adulte, une punaise de lit adulte doit se nourrir de vous au moins 6 fois pour devenir adulte. Hein. Et après, elle peut résister des mois et des mois sans manger. Par contre, elle ne résiste pas plus de 7 minutes à 46 degrés, donc pas les séchoirs. Enfin, oh, si vous voulez vous en débarrasser. C'est le meilleur endroit, les séchoirs. Et de la même manière, elle meurt au bout de 15 minutes à moins 32. Voilà. Donc, si vous avez ces bestioles chez vous, n'ayez pas honte. Ça peut arriver.
Ne vous inquiétez
mais
pas.
Mais la première, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la mort, ce n'est pas le cancer. Mais qu'est-ce que vous devrez faire? C'est d'abord annoncer votre propriétaire. Oui, je vois quelqu'un se gratte déjà. C'est normal. C'est normal, vous savez pourquoi? Parce que en fait, c'est ça, c'est la pire des choses quand on a ça. Ce n'est pas physique, hein, parce qu'il y a juste des petites piqûres de, comme des moustiques, mais c'est plutôt l'anxiété. On est obsédé par cette idée-là qu'on a les punaises. Donc, annoncez votre propriétaire. Pourquoi? Parce qu'il a l'obligation légale de résoudre ce problème. Et la plupart du temps, il appelle un gestionnaire de parasites qui intervient en proposant principalement deux solutions. Soit l'utilisation d'insecticides, ce qui est une méthode un peu agressive et ça ne convient pas pour tout le monde, pas pour les enfants, pas pour certains objets. Ou sinon, on emploie la vapeur d'eau chaude, donc la méthode la plus répandue. Et bien sûr, il y a d'autres moyens à la portée de tout le monde, comme l'aspiration des insectes, la protection de matelas, mais aussi des méthodes traditionnelles, puisqu'on en parlait tout à l'heure, des choses plus naturelles, comme par exemple les plantes, le poivre noir, le henné, hein, vous savez, pour les cheveux, le tabac, fumé, et voilà, et la menthe sauvage.
Mais... Est-ce que tu es en train de donner le tabac comme une solution?
Non, c'était moi qui dis. Non. Non. Mais c'est vrai, je ne sais pas si ça fonctionne vraiment, mais on pourrait essayer. Mais j'espère ne jamais avoir ces bêtes à la maison, mais on ne sait pas. Hein. Mm-hmm. Mais une protection efficace reste en fait la vigilance. Donc, il faut être vigilant. En gros, si vous voyez des matelas dans la rue, ne ramassez jamais.
Là, on est rendu à la morale de l'histoire.
La morale, mais vous voyez, il y a aussi une chose qui est moins bien, parce que ça empêche le recyclage. Oui, il y a des objets pas mal aussi dans la rue qu'on peut transformer. Ben là, ils nous disent, écoutez, il peut y avoir des punaises, donc ne touchez pas. Ce qui n'est pas fun. Et lors de vos déplacements, ne posez jamais votre valise sur un lit et utilisez des housses de protection pour le lit. Donc en conclusion, la faute à personne, la responsabilité de tous... Pour un lit sans punaise.
Waouh! Là, on se gratte tous, là. Fait qu'il faut rester vigilant. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut composer si on est pris avec ce genre de problème-là? Ou si jamais on a des doutes?
Non, parce qu'en fait...
Il faut contacter son propriétaire.
Son propriétaire, ne faites pas vous-même. Ne prenez pas des produits et commencez à faire quoi que ce soit. C'est vraiment une affaire sérieuse. Puisque si les autorités ont mis sur pied un plan d'action régional de lutte contre les punaises de lit, dites-vous que c'est quand même
sérieux. C'est sérieux. Ah, merci Madalina, avec toujours des sujets aussi inusités que pertinents. Je vous rappelle que vous écoutez Planète Montréal du jeudi avec moi-même, Kitty alias Lady Special K et son Dream Team. Et écoutez, on retourne juste après cette plage musicale, DJ Licks. On part en musique avec Namori et le titre éponyme, Namori.
Pause de grattage.
watie. Bashomana tete. Voy watie. Ben ro Santiago. Cabo se para. Angelo die shine shine. Angelo die shine shine. Nano romase. Angelo die shine shine. Angelo die shine shine.
Wow, c'était retentissant. J'ai comme envie d'applaudir. Alors, Shelby, cette semaine, tu avais envie de nous parler un petit peu de diversité au cinéma, théâtre, télé.
Il s'est passé quelque chose
récemment au théâtre qui mérite quand même notre attention pour justement la symbolique. Et puis aussi, il y a une situation de manque de représentativité, je trouve, ici au Québec. Puis tu t'as demandé à Jérôme Pruneau, qui est avec nous en studio. Bonjour.
Bonjour.
De venir s'entretenir avec toi sur le sujet.
Oui. Donc, dernièrement, il y a un phénomène dans le spectacle 2014 revu et corrigé au Théâtre du Rideau Vert, soit le retour du blackface, qui n'a pas été bien accueilli par plusieurs. Et cette problématique, ça nous amène à nous vraiment nous demander comme question si la diversité va réellement avoir sa place dans l'industrie du cinéma, du théâtre et de la télé. Et si elle finit par avoir sa place, est-ce que ça va être pour les bonnes raisons? Alors, j'ai avec moi Jérôme Pruneau, qui est spécialiste dans ce sujet. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette problématique-là qu'il y a? Parce que j'ai lu plusieurs articles suite à ce phénomène et il y avait Denise Filiatro qui a dit qu'elle était outrée, humiliée, fâchée de la manière dont les personnes ont réagi par rapport au blackface, qu'elle ne considérait pas comme étant un blackface. Et elle a rajouté que les personnes, les signataires de tout ça étaient des malades et des mesquins et que, ben, on en mettra plus des noirs si c'est ça qu'il faut.
Ouais, ça c'est intense.
Ça a été assez.
Mais Jérôme, avant de t'entendre là-dessus, moi, j'aimerais savoir, t'es qui? Est-ce que je vivais sous une roche depuis les 12 dernières années?
Je suis le directeur général de Diversité Artistique Montréal, anthropologue aussi au passage, ce qui m'amène à travailler avec des artistes issus de la diversité à longueur d'année dans toutes les disciplines, puisque notre mandat c'est d'aider finalement tous ces artistes à trouver leur place, recommencer une carrière pour les nouveaux arrivants, et puis pénétrer le marché pour ceux qui sont nés ici, ce qui n'est pas facile dans le milieu artistique, c'est difficile pour tout le monde de toute façon.
Génial. Ben, écoute, bienvenue. Voilà, bienvenue à Planète Montréal du jeudi.
C'est gentil. Oui, ben, c'est ça. On a une petite controverse, une grosse controverse même. Ça a fait couler de l'encre, comme on dit. Puis ça fait deux fois en deux ans. Je trouve que ça fait un peu beaucoup parce que ça a effectivement fait réagir. Nous, on avait fait un premier communiqué de presse, puis une lettre ouverte début janvier qui a été signée par un peu plus d'une centaine de signataires pour finalement, au-delà de dénoncer ce qui s'était passé au Rideau Vert, et puis on ne l'a pas dénoncé comme on l'a pu le lire dans les journaux, on n'a traité personne de raciste, on a dit que l'acte en lui-même renvoyait, avait des connotations racistes, et qu'il fallait tout simplement arrêter avec ça, puis on tendait une main justement pour dire comment on peut changer tout ça, il est peut-être temps d'arrêter, de passer à autre chose, je pense pas qu'on ait besoin de ça au Québec, on peut être plus créatif, plus imaginatif. Effectivement, ça fait une levée de bouclier celui de Denise Filiatro, la metteur en scène.
Ouais.
Alors, chacun réagit à sa façon. Je trouve ça dommage. Elle aurait été dans le panthéon, selon moi, des metteurs en scène si elle avait plutôt pris la question différemment, puis elle s'était peut-être excusée auprès éventuellement des gens qu'elle avait choqués, parce qu'elle en a choqué quelques-uns, et puis en se demandant comment on peut éventuellement améliorer ça plutôt que d'être choqué, puis de dire surtout j'en mettrai plus des noirs aujourd'hui. Alors ça je trouve ça un peu dramatique. mais ça lui appartient. Donc je ne suis pas là pour faire son procès. Personne n'est là pour faire son procès. En même temps, il faut saluer aussi qu'à une époque, c'est aussi une dame qui a aussi mis des Noirs sur les scènes de théâtre. Donc c'est un peu paradoxal. C'est peut-être une difficulté. Et je pense que c'est une difficulté de compréhension. En tout cas, c'est lié à la culture québécoise aussi qui peut-être n'a pas cette référence à l'histoire. C'est vrai que le blackface est né aux États-Unis, ça a circulé partout dans le monde, mais il y en a eu aussi à Montréal, à la fois par des tournées américaines qui sont venues se balader à Montréal, mais aussi sur des productions locales au 18e siècle, 19e siècle. Donc c'est une réalité, il faut regarder les choses en face. C'est quelque chose qui oui, peut choquer des gens de certaines communautés, puis il suffit simplement de se dire comment on peut changer ça, puis je pense qu'il y en a des solutions aujourd'hui, quoi.
Oui, écoute, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu dis. Puis, qu'est-ce que je trouvais quand même assez intéressant, c'était justement le fait qu'il y a eu vraiment plusieurs réactions, autant que des gens étaient se sentaient outrés, fâchés, alors que d'autres étaient comme, OK, mais est-ce qu'ils vont en revenir de cette histoire-là? Est-ce qu'on passe à autre chose? Alors, il y a ces deux mentalités-là, ces deux questionnements-là qui se font. Alors, c'est à savoir s'il est préférable de non banaliser, mais plutôt d'avancer, de ne plus regarder en arrière, tout en donnant une autre signification à ce phénomène qui était le « blackface ». En pensant toujours que les Noirs, ils ont été maltraités, ben on n'avance pas. Alors, il y a des gens qui pensent comme ça. Ou il y a l'autre mentalité qui dit, est-ce que c'est pas mieux ou préférable de se rappeler de ces gens-là qui ont vécu ça auparavant et de pas reproduire ça, pas reproduire ce qui a été une blessure dans le passé, dans la réalité d'aujourd'hui qui a plus sa place. Donc, il y a plusieurs questionnements qui se font par rapport à qu'est-ce qui s'est passé. Ces deux réalités-là sont confrontées présentement. Puis il y a celui qui veut passer à autre chose, puis il y a l'autre qui veut tout simplement qu'on le comprenne. Alors, où est-ce qu'on se positionne dans tout ça? Où est-ce que le Québec se positionne
dans la discussion? Il y a aussi, d'un côté, la liberté d'expression, parce que c'est une œuvre artistique. Puis l'auteur a un peu le droit de vouloir s'exprimer comme il l'entend. Puis en même temps, il y a cette réalité que la diversité n'est pas bien utilisée, représentée sur toutes les plateformes artistiques qui sont à notre portée, que ce soit le cinéma, le théâtre, la télé. Fait que c'est comme si on était pris en deux chaises. Jusqu'à quel degré on peut laisser un auteur aller libre cours à sa créativité, mais en même temps, il y a une situation réelle, sociale, de représentativité qui est un petit peu mal comprise, bafouée. Puis, parce que je trouve que c'est dangereux de redire ça à la représentation du noir. C'est pas juste le noir. Il y a l'asiatique, il y a le maghrébin, il y a, je veux dire, la diversité,
en général,
ça le dit, hein, ça doit être diverse. Ouais. Alors, je trouve ça plate, premièrement, justement, la réaction de la principale intéressée, Denise Filiatro, de juste dire, j'en mettrai plus du tout.
Non, j'en mettrai plus de noir.
Elle en mettra plus du tout.
Ça
aurait été intéressant de comprendre un petit peu d'où venait, quelle est l'origine de cette décision-là, parce que ça revient quand même à une expression artistique. Est-ce que vous avez entendu des échos là-dessus?
Ben, moi, honnêtement, sur la dimension artistique... Pour faire un parallèle à ce que vous disiez au niveau de la liberté d'expression, oui, elle existe, et puis tant mieux, j'ai envie de dire, cette liberté d'expression, on sait de quoi on parle aujourd'hui.
C'est ça.
C'est juste que là, on navigue sur des symboles. Puis la symbolique, à un moment donné, elle a souvent beaucoup de poids. Et c'est vrai que on aurait du mal aujourd'hui à aller, même si, moi je pense que pour une société saine, il faut se moquer de tout le monde. C'est très sain de se moquer de tout le monde. Mais j'y reviendrai, mais est-ce qu'on peut aujourd'hui, je suis pas sûr que ça passerait bien si on se moquait de la communauté allemande avec des croix gammées sur une scène, ou si on se moquait de la communauté juive avec des étoiles de David. Bon. Il y a cette dimension. En tout cas, ça renvoie à la responsabilité de celui qui le fait. Il porte une responsabilité de le faire. Il faut qu'il assume. Ça, c'est le premier élément, je pense. Le deuxième, c'est que, effectivement, moi, ce qui m'a le plus choqué à y réfléchir, c'est le problème de fond. C'est que Denise Filiatro dit, en plus, c'est un numéro qui dure que 12 secondes. Et cette revue, elle dure 2 heures. Alors, en fait, ce qui me questionne, c'est comment on représente le social, c'est-à-dire l'année qui s'est écoulée, et qu'on représente que 12 secondes de tout ce qui a trait à la diversité. Et là, on touche effectivement un problème de fond, c'est la sous-représentation. C'est une réalité, elle n'est pas là. Le jour où on aura une troupe qui fera sur une revue comme ça, où on aura 30 minutes pour se moquer des Noirs, des Arabes, des Chinois, ce sera plutôt sain. Mm-hmm. Ça voudra dire en plus mm-hmm. qu'on aura nécessairement intégré plein d'artistes de la diversité pour faire ces sketchs-là. Donc là, on sera au cœur du... Je pense qu'on aura avancé vraiment.
Le discours va être différent. Oui.
Voilà.
Le discours sera différent.
Donc, parce que quand Denis Filiatro dit, en plus, on n'a pas beaucoup de budget, moi, je ne veux pas embaucher un acteur noir juste pour 12 secondes, soit. Mais c'est...
Mais son acteur blanc qui est maquillé en noir, elle l'a quand même engagé.
Oui, c'est ça. Non, mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, justement, puisse intégrer dans les troupes suffisamment de gens. Il y en a plein des bons artistes, des artistes de la diversité, pour que, justement, ces pièces représentent réellement ce qui se fait aujourd'hui ici au Québec. Montréal, faut le rappeler, c'est 33% de gens issus d'immigration. Si on ajoute les premières et deuxièmes générations d'immigrants, on est à un Montréalais sur deux qui a une origine diverse.
Mais justement, vous travaillez avec ces artistes d'origine mm-hmm. diverse. Alors, quelles sont leurs frustrations? Qu'est-ce qu'eux, ils ont comme attente dans ce milieu et les problèmes qu'ils racontent?
Il y a des barrières systémiques. Je veux dire, le milieu des arts et de la culture, il est comme tous les autres milieux professionnels. Il y a une difficulté de pénétration du marché si on prend les statistiques du ministère de l'Immigration en termes d'emploi à large, pas seulement dans le milieu des arts. Je veux dire, aujourd'hui, la communauté noire est à 45% de chômage, la communauté maghrébine à 35%, la communauté asiatique à 18%. Bon, donc il y a des barrières systémiques à l'emploi. Tout simplement, ça se répertorie aussi au niveau des arts et de la culture. On a ce même problème d'accès à un moment donné au métier, quoi. Alors, ça passe par les associations professionnelles qui sont très difficiles d'accès. Et puis, encore une fois, ça passe à cette question de la représentation, parce que on peut pas penser diversité si la diversité n'est pas là pour nous aider à y penser. Donc c'est une question, je pense, de réflexe qu'il faut qu'on ait tous et qu'on n'a pas encore aujourd'hui. On pense diversité culturelle, moi je pense qu'il faut penser culture de la diversité. Mmh. Il faut l'inverser pour qu'on ait systématiquement à l'esprit cet autre qu'il faut plus qu'il soit
quelque
à côté de nous. Hein. La diversité, ça ne doit plus être l'autre, il ne faut même plus la nommer dans l'absolu. Mmh. C'est, la diversité, c'est nous autres, mmh. c'est ce qu'il faut essayer de mmh. dire. Et ça, c'est un message qu'il faut porter là, tout autant qu'on est autour de la table, allons-y.
Oui, oui. Puis à la veille du mois de l'histoire des Noirs, c'est d'autant plus pertinent d'en parler ouais. et de justement brasser un petit peu cette situation-là, même s'il faut mettre le doigt là-dessus parce qu'il y a plein d'autres situations analogues ou bien qu'on pourrait s'attarder, mais celle-ci est d'actualité et c'est pas pour s'acharner, mais c'est plutôt non. pour pouvoir développer le dialogue.
Il y a des faits, je veux dire, dans le dernier, il y a eu un très bon cahier dans la presse le week-end dernier, là, de Hugo. Hugo Pilon-Larose, le journaliste, qui a fait un très bon dossier. Et il montre des statistiques. Je veux dire, elle parle d'elle-même. Dans le milieu du théâtre ou du cinéma, aujourd'hui, c'est moins de 5% la représentation. Terminé, tout est dit. Je veux dire, 5% versus 33% aujourd'hui à Montréal, ou même dans le Québec, c'est quand même plus de 13% l'immigration. À un moment donné, il y a cet effort à faire. Il faut qu'on le fasse tous. Il y a des choses qui se mettent en place. Il y a une prise de conscience dans le milieu. Il faut dire aussi ce qui est. Mais il faut appuyer sur le clou, la taper sur le clou pour vraiment qu'il s'enfonce.
Tout
c'est,
à fait.
C'est une nécessité.
Comment qu'on pourrait laisser nos auditeurs en guise de conclusion? Qu'est-ce qu'on pourrait dire?
Bon, j'avais un point à apporter, mais... écoutez,
vas-y, vas-y.
OK, par rapport à mon point, Madalina, tu parlais de les conséquences que ça peut avoir. Ben, oui. La plupart des personnes de la diversité qui font les écoles de théâtre et tout, il y a deux conséquences. C'est soit qu'il y en a qui décident de jouer ces rôles-là dits stéréotypés, parce qu'à la fin de la journée, ils doivent payer... Qu'est-ce qu'ils ont à payer? Mais c'est à court terme, ça. À long terme, à un moment donné, tu commences à perdre foi en le changement qui pourrait vraiment y avoir lieu. Et de l'autre côté, il y a celui qui a fait les écoles de théâtre également et qui décide de simplement pas jouer ce genre de rôle-là parce qu'il sait qu'est-ce qu'il peut livrer, il sait qu'est-ce qu'il peut jouer et d'incarner un personnage qui, des fois, est sans couleur nécessairement, mais qui a juste le stéréotype, ben ça devient longtemps.
Ben c'est ça. Jouer alors, un noir, ben c'est ça.
Alors c'est ça. Alors ben c'est ça. Non ça non, dit. Mais oui. Alors c'est ça. Il y a ces conséquences là qui arrivent et il y a aussi le fait que il y a des gens qui aimeraient ça rentrer dans les écoles de théâtre et être comédien et tout, mais trouve ta télévision, tu te retrouves pas. Alors déjà là, en voyant ça, tu te dis. C'est quoi les chances que je puisse vraiment percer dans ce milieu-là? Alors, les chances sont basses, selon eux. Et il y a toute cette problématique-là, il y a beaucoup de questionnements.
C'est la question de l'identification.
Rapport,
c'est-à-dire
oui.
qu'à un moment donné, quand on ne se voit pas, on ne s'identifie pas. Et si, ouais. si on ne s'identifie pas, on ne participe pas.
Mais ça, on n'encourage pas. C'est une réalité. C'est une réalité, puis ça doit bouger. Ça doit bouger d'une manière ou d'une autre.
C'est très inspirant aussi ce qu'elle dit, de pratiquer la culture de la diversité à la place.
faut conclure.
Oui, alors, écoutez, je sais pas à qui je m'adresse présentement, mais c'est vraiment...
Tu t'adresses aux auditeurs.
Oui, mais... peu importe, les personnes qui nous écoutent, qui ont des projets en tête, les personnes de la diversité qui aimeraient ça amener une nouvelle plateforme qui aimeraient apporter une nouvelle plateforme, un nouveau projet qui pourra mettre de la couleur un petit peu dans cette belle ville qu'est Montréal. Ben écoutez, la porte est grande ouverte. Merci beaucoup Jérôme d'être venu. On en apprend toujours. Alors je suis vraiment heureuse d'avoir pu échanger.
Merci beaucoup avec Shelby. C'est vraiment un super bon sujet. Je pense que la porte est ouverte pour en débattre. Oui. Et puis vous aviez parlé d'une pétition. Est-ce que la pétition est toujours ouverte?
Ce n'est pas une pétition, c'est une lettre ouverte.
Une lettre ouverte.
Qui a été signée. L'idée, c'est simplement c'était de dénoncer à un moment donné. Donc, cette lettre ouverte, c'est vraiment pas une pétition, quoi.
D'accord.
Mais il faut continuer à parler. Effectivement, il faut débattre. C'est le débat qui fait avancer les choses, nécessairement.
Ben, vous pouvez toujours nous appeler pour continuer le débat. Nous, on a vraiment envie d'entendre votre opinion là-dessus. C'est un sujet très pertinent et d'actualité. 514-495-2597. Alors, on continue en musique avec DJ Licks et on revient en studio. On a de la grande visite. Malika Tyrolien est là. Ça va être trop cool.
Sérieux, passe moi paix, pas fait semblant. Nous malhérés, nous cababiers, distance vie en mi-temps. Chaque fois c'est en vie, quoi, c'est en moi. En bas qu'à sentir moi bien. C'est pas si t'es en moi. Ça vient dans
Effectivement, c'est comme ça. DJ Lix, elle ouvre le micro et puis... Nous, on est en caucus. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est en plein cœur de l'émission Planète Montréal du jeudi avec moi-même, Kitty, alias Lady Special K, et ma superbe équipe. Écoutez, on a commencé l'émission avec Kate, Chronique Santé, Madalina et ses punaises de lit. Ensuite, Shelby nous a entretenus sur la diversité avec Jérôme, son invité, sur la diversité au théâtre, cinéma et télévision. Et là, on a Malika Tyrolien qui est avec nous en studio. D'ailleurs, ce que vous entendez là, c'est Ija Fini, une chanson de son dernier album. Tu me donnais le titre là pendant que le micro ouvrait. Comment vas-tu, Malika?
Ça va bien, merci.
Ça va bien. À chaque fois que tu viens en studio, tu vois, à chaque fois que je t'invite, je suis dans un nouveau studio.
Exactement.
Toi, t'amènes le soleil des Caraïbes avec toi. C'est toujours un plaisir de te recevoir.
Ah ben merci. D'ailleurs, le titre de mon album, c'est Sur la voie ensoleillée.
Ah, Malika. Écoute, je te garde pour le dessert, okay. Après la pause publicitaire. Mais là, j'ai en face de moi Andréane. Andréane, c'est trop comique. Tu as préparé ta chronique depuis la semaine dernière.
Ben, parce qu'elle est vraiment préparée.
Elle est vraiment préparée.
Elle est réchauffée.
De quoi tu nous parles?
Mais je vous parle en fait du End of the Week, qui est une des plus grosses compétitions d'improvisation hip-hop au monde. Alors, le concept, ça vient des États-Unis. La première édition se fut en 2000 à New York et ça a tellement bien fonctionné que maintenant, c'est plus de 15 pays et grandes villes qui le font respectivement dans leur patelin.
C'est un raz-de-marée, là.
Oui, exactement. Alors, le concept, il est vraiment simple. C'est un concours de MC qui mise sur l'originalité et la créativité du participant. Alors, il y a des artistes moins connus et de renom. Donc, c'est sûr qu'on en découvre, là, ceux qu'on ne connaît pas. Alors, la première soirée va se dérouler le 31 janvier prochain à Montréal. Je vous en parle dans quelques instants où est-ce que ça va être. Et les participants, ce sera Aurélie G, Chacal Colic, Elmite de 18 Plein Gris, Jibenad et Esti. Alors, en gros, comment ça fonctionne le End of the Week? C'est une compétition qui se déroule en 5 épreuves. Donc, la première épreuve, c'est le texte libre. Alors là, c'est là qu'on voit la capacité d'écriture de l'artiste. Ensuite, t'as le a cappella. Donc là, c'est là qu'on voit aussi si l'artiste a un bon rythme sans instrumental. Et en troisième, c'est l'improvisation. Donc là, l'artiste doit être vraiment rapide, spontané, parce que il doit en plus improviser sur 5 objets qui sort d'un sac. Donc, tu sais, t'as pas le temps de réfléchir bien, là.
Non, c'est assez spectaculaire.
Oui, ça doit.
Oui, mais pour l'avoir jugé une fois, là, puis c'est pas juste un rythme effréné pour les participants, mais aussi pour les juges.
C'est ça, hein? Là, la quatrième épreuve, c'est le MC versus le DJ. Donc là, le DJ s'amuse. Le DJ met la musique en accélérant de plus en plus. Il break le son. Puis là, le MC, dans tout ça, il doit tenir son flow. Donc, c'est un bel exercice de style. Et le dernier, c'est le Sifa Skills. Alors, c'est 4 MC qui font tourner le mic toutes les 4 mesures et ça, 3 tours. Alors, moi, je trouve que c'est une très belle visibilité pour les artistes. On apprend aussi à connaître leurs forces. Et c'est un beau défi qui va les sortir de leur zone de confort.
Ah oui, c'est les Olympiades du fait. Master of Ceremony.
Tout à fait. Donc, de notre côté à Montréal, celui qui a amené le End of the Week à Montréal, c'est Benoît Bibrand Baudry. Donc, il a amené ça en 2011. Et puis, depuis ce temps-là, ça fonctionne bien. On est rendu à la 4e année du End of the Week. Et le dernier gagnant du End of the Week, alors c'était Monkey, qui est un artiste, rappeur et peintre. Mm-hmm. Et ce qui est le fun avec cette compétition-là, c'est qu'à la fin, les artistes, dans le fond, l'artiste qui va nous représenter, l'artiste du Québec, va aller dans un autre pays, nous représenter, puis peut-être gagner la finale. Alors là, l'année 2014, ben Monkey, lui, est allé en Ouganda. Donc, c'est quand même intéressant parce que c'est là qu'il y a le plus de partage par rapport à la culture musicale et probablement aussi des rencontres très intéressantes et des beaux souvenirs. Puis là, donc le prochain End of the Week à Montréal commence le 31 janvier au Divan Orange, qui est situé tout près d'ici d'ailleurs. Et donc, c'est la quatrième année, bien entendu. Ça va se terminer en septembre prochain pour la finale nationale. Et là, ce qui est super cool dans tout ça, c'est que la finale mondiale se déroulera cette année à Montréal.
Sérieux?
Oui. Fait que c'est super cool. C'est une très belle visibilité pour Montréal.
C'est plate pour le gagnant parce qu'il ne pourra pas voyager.
Non! C'est plate, oui, mais en même temps, ça va nous amener beaucoup, beaucoup de personnes ici. Fait que c'est ça qui est intéressant. Puis, ça sera ne pas manquer. Et si vous voulez avoir plus de détails sur le End of the Week, c'est super facile de trouver sur Facebook. Vous écrivez End of the Week Montréal ou bien EOW. Là. C'est assez simple. Vous allez pouvoir trouver l'information vidéo des années précédentes. Et donc, le 31 janvier, ça commence au Divan Orange à 21h au 4234 Boulevard Saint-Laurent. L'entrée, c'est de 10$. Et puis, il va y avoir même aussi un open mic parce qu'il y a comme un... La foule va choisir un MC, donc le MC du public. Et pour ceux qui veulent participer à l'open mic, ben faut que vous présentiez le 31 janvier, vous devez vous présenter à la porte puis vous inscrire pour pouvoir y participer et qui sait qui sera le gagnant à la fin. Donc
moi j'y serai, seras-tu?
Oui.
Alors, End of the Week, une activité vraiment intéressante. Puis comme tu l'as mentionné, c'est l'instigation de B-Brain et de Vulgaire. B-Brain est l'animateur, un des animateurs principaux d'une émission Amis Ghetto Érudit sur CISM. Donc, un gros shout-out à B-Brain et Vulgaire. Belle initiative. Puis Monkey, qui est comme tu l'as dit, c'est un artiste rappeur qui a gagné l'année dernière. Et je pense que c'est lui aussi qui avait gagné l'année précédente.
Fait deux années là qui
c'est assez intense, hein?
Ouais.
Fait que Monkey aussi est un peintre. On peut voir ses œuvres un peu partout à Montréal. Et entre autres, une belle activité qui bat son plein lors du mois de l'histoire des Noirs, c'est le Festival Fro. Et c'est l'artiste officiel du Festival Fro. Si vous voulez voir de quoi ça a l'air, ce qu'il fait, vous pourrez le voir en peinture en direct live sur scène le 13 février lors de la troisième soirée du Festival Fro qui aura lieu à la Grande Bibliothèque de Montréal, puis je l'ai dit, le 13 février. La première soirée, c'est ce samedi, le 31 janvier, qui met en vedette M1 de Dead Prez. Pour les amateurs de hip-hop, c'est sûr que vous connaissez Dead Prez, sinon vous dormiez sur une roche depuis les 15 dernières années. Et au programme, il y aura aussi Myriam Sassi, Emery Cal, Freddie V, Rone Higgins, et c'est Malicious qui sera la peintre qui fera une fresque en direct sur la scène. Le tout est animé par le DJ, musicalement par le DJ Mad, et je serai maîtresse de cérémonie pour les trois soirées. Alors, je suis très, très, très contente. La deuxième soirée, c'est le 7 février. Et la troisième, le 13. Les trois soirées commencent à 20h. Et je vous rappelle, c'est à la Grande Bibliothèque de Montréal. Festival Fro, une activité vraiment à mettre au calendrier du mois de l'histoire des Noirs. Donc, il nous reste 4 minutes avant la plage publicitaire pour qu'on n'y répand en musique. DJ Lix, est-ce que tu as quelque chose de M1? Est-ce que tu as... Qu'est-ce que tu nous mets? Qu'est-ce que tu mets? C'est une surprise? Hein? Je comprends rien. Balance le son.
Yeah.
Yeah, yeah, yeah.
Ha. Un solo mundo.
One world.
Es para mí, ha.
Díselo. Díselo, mexicano.
Me estoy escuchando. No tengo mucho, pero lo que tengo basta y sobra. A pesar de las envidias y traiciones que los demás sobran, encuentro mi persona día a día en esta vida, buscando la mejor salida, teniendo a mi familia protegida de injusticias, de mentiras. Y sigo firme en este mundo, pues es nuestro, y de cualquier manera hay que sacarle provecho, es nuestro derecho.
Por veces me siento y pienso que sería de mi vida en este momento. No me lamento de lo que yo ahora tengo, pero tal vez en mi país debido a la pobreza hubiese aprovechado el tiempo. Hay muchas cosas de este mundo que no entiendo, situaciones que regresan en diferentes aspectos, con nuevos sentimientos, enormes desconciertos. Mi mundo subterráneo sobresale en los conciertos. No cabe duda que este es el rumbo, el mundo profundo que
seríamos quien somos, ahora cuál. Siempre listos a luchar para la libertad, de expresión para poderles gritar la verdad, de nuestro pueblo que muchas pruebas pasando está, por eso que nuestro mundo fronteras no tendrá. Des bagages que je traîne, peu de rage et de haine, pas de ceux qui sont en otage. De même comme l'arbre, je vainque les intempéries en restant précis sur mes acquis. Je me sens ravi, pouvoir étreindre mon histoire sans gêne ni regret. S'ils savaient d'où je viens, je ne doute point, mais fonce, j'écoute bien les sons offerts à moi. Ils me servent ma voix, on ne peut me taire. J'aboie mon passé à voix haute, car chaque faute arrose les racines de sagesse. Il y a mille morts caresses, les cicatrices qui apparaissent sur les corps. J'utilise mes forces lorsqu'arrive une averse, car les vraies lames prêtes à vivre des drames. Je verse l'essence de chaque expérience. Ensemble, elles chantent. Des danses, ma santé semble en dépendre. En changeant les angles, tu changes ta perception. Si je perdais mon passé, mon futur paraît très long. Les chambres lents, c'est sûr. En attendant, j'ai peur. Ma tête est sombre. Ce monde. That's right, man.
Besoin d'un coup de pouce publicitaire? Radio Centre-Ville vous offre la possibilité de rejoindre notre public multiculturel et multilingue. Français, anglais, espagnol, portugais, créole, grec, cantonais et mandarin. Un éventail commercial dont vous ne pouvez pas vous passer. N'attendez plus et profitez de vos 40 ans d'expertise. Pour information, contactez dès maintenant Christina 514-495-8836 ou visitez www.radiocentreville.com.
Contribuez au maintien de la seule radio communautaire multilingue de Montréal. En donnant maintenant de façon sécuritaire sur radiocentreville.com, vos dons sont déductibles d'impôts. Radio Centreville.
Radio Centreville.
Radio Centreville.
Radio Centreville, 102,3 FM, un monde différent.
À tous de la part de ASC Montréal, votre centre de test agréé pour le TEF-TEFAC. Pour commencer l'année 2015, ASC Montréal vous offre une promotion sur le TEF et le TEFAC de base. Au lieu de 250 ou 245 $, vous ne payez que 195 $ du 7 au 30 janvier. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et bénéficiez de cette super promotion. Vous devez être disponible du lundi au vendredi, le matin et l'après-midi. Appelez maintenant 514-844-4849.
Radio Centre-Ville, 102,3 FM. Un monde différent.
Planète Montréal du jeudi est présentée par landurbain.com, votre web média de Montréal au service de la planète urbaine.
Mais oui, c'est ça, Planète Montréal, au service de la planète urbaine. C'est beau, hein? Vous aimez ça, hein? Malika, comment vas-tu?
Ça va super bien.
Alors, mesdames et messieurs, je vous présente Malika Tyrolien, une artiste vraiment d'un grand talent. Malika, parle-nous un peu de toi. D'où viens-tu?
Alors, je suis d'origine guadeloupéenne et Marie-Galantaise plus précisément. Et j'ai déménagé à Montréal en 2003. Et depuis, je suis restée ici. Donc, je me considère un petit peu comme une Montréalaise aussi. Et je suis chanteuse, auteure, compositrice, interprète. Et je joue du piano aussi. Et je viens de sortir un album en automne qui s'appelle « Sur la voie ensoleillée ». Et c'est ça.
Malika est carrément mon coup de cœur 2014. J'adore le timbre de ta voix. J'aime ton énergie. Elle est contagieuse. Et j'aime surtout ce sur quoi tu écris. La voix ensoleillée, ça le dit très bien. Ta voix goûte le soleil. Et non seulement ça, c'est un parcours. Est-ce que je me trompe?
Pas du tout. C'est exactement ça. D'ailleurs, si on voit la pochette de l'album, c'est une route en fait. Et c'était un peu une image par rapport au fait que la musique ou la carrière ou la vie, c'est un parcours, c'est vraiment un cheminement et c'est pas une destination. Donc c'est vraiment d'apprécier chaque moment de la route au lieu d'essayer d'accéder à un rêve peut-être qu'on atteindra ou qu'on n'atteindra pas. Et il vaut mieux peut-être profiter de l'instant présent.
En 2015, j'évite de faire des résolutions, mais je me suis dit, c'est pas une mauvaise chose de terminer la journée ou de terminer un chapitre en identifiant ce pourquoi on est reconnaissant. Ah, ça fait là déjà presque un an que l'album est sorti. Est-ce que tu es capable d'identifier ce pourquoi tu es reconnaissante?
Ben, ça fait pas presque un an. Ah? Ça fait juste quelques mois, c'est sorti.
Mais tu vois, c'est parce que ça devait faire presque un an.
Mais je suis vraiment reconnaissante d'avoir des amis qui sont aussi mes musiciens, en fait. Ça aide vraiment dans la cohésion et beaucoup. On a une belle osmose ensemble. Et je m'estime vraiment chanceuse de les avoir avec moi. Puis aussi de jamais avoir abandonné, d'avoir toujours cet amour de la musique, malgré le fait que c'est quand même assez difficile de vivre de son art ces temps-ci. Et encore plus quand on est une personne de couleur, on va dire. Vu que justement,
c'est le thème de l'émission.
Si on rejoint un petit peu le débat qui a eu lieu un peu précédemment, c'est vrai que c'est aussi le cas au niveau de la télé, mais au niveau des radios, les personnes de couleur sont moins représentées. Donc c'est ça nous oblige à nous renouveler, à nous battre, et ça accroît notre créativité aussi, je pense.
T'as un show qui s'en vient bientôt.
Oui.
Le 31 janvier.
Il y a beaucoup de choses le 31 janvier.
Quelle grosse date! Est-ce qu'il y a un croisement lunaire? Un astéroïde va traverser.
Mon Dieu, ça
va être une soirée de ouf, comme on dit.
Ouais. Les gens seront occupés à passer un petit peu partout.
Exactement.
Donc moi, je vais être au Bobard avec mon full live band. Puis j'aurai des albums aussi avec moi. Et d'ailleurs, on va faire des chansons de l'album live, mais aussi d'anciennes chansons, des nouvelles chansons et quelques petites reprises aussi, un peu mises à la sauce Malika.
Ben Malika en show, ça ressemble à quoi?
Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à 7 musiciens sur scène. Ça ressemble à beaucoup de soul, de R&B, du jazz, du hip-hop et aussi beaucoup d'épices afro-caribéennes.
Alors, pour tous ceux-là qui se plaignent de la froidure, là,
hein,
si vous voulez aller vous réchauffer un peu le sang, là,
voilà,
à noter, à mettre à l'agenda, oui, le Bobard, c'est un arrêt obligatoire.
C'est ça. En plus, c'est pas cher, c'est 10$ l'entrée. Et ça commence à 21h. Enfin, on demande aux gens d'être là à 21h. Donc, il y a moyen d'aller faire un début de soirée ailleurs, d'arriver après. C'est possible.
Oui, tout est possible. Prenez un taxi.
Hey Malika, moi j'aurais envie là que tu nous gâtes un peu là. Tout le monde est vraiment pendu à tes lèvres. Tout le monde attend que je pose la question. Peux-tu chanter pour nous?
Alors,
a cappella.
J'ai chanté un petit quelque chose à cappella.
A cappella. Okay. DJ Lex, on baisse le son. Il n'y a pas de son, c'est dans ma tête. Okay. Donc, mets live on the spot.
Je vais vous chanter une petite chanson utopique qui s'appelle Dreaming. I see Mother Nature is cared for. She's in ecstasy, breathing easily. And I see every shape, every color of humanity, shining equity. When it rains, every home is a shelter with open doors, no alarms, honest hearts, open arms. Everything is so pure and so simple, satiated souls asking nothing more. In my dreaming, oh, I've never seen this world before. If I'm dreaming, oh, don't wake me till tomorrow.
C'est chargé d'émotions. Malika, où est-ce qu'on peut acheter l'album? Où est-ce qu'on peut prendre de tes nouvelles? Où est-ce qu'on peut te suivre? Et où est-ce qu'on peut t'entendre samedi?
Alors, on peut me suivre sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, Malika Tyrolien. Sur mon site web aussi, malikatyrolien.com. Et d'ailleurs, ça donnera d'ailleurs les liens pour l'album qu'on peut trouver sur iTunes, sur Bandcamp. Mais j'ai des copies physiques avec moi. Donc, si vous en voulez, vous pouvez juste venir à mon show samedi 31 janvier, 21h, Bouvo Bar, $10. Je peux même vous faire une petite signature sur les albums à la fin du show. Et c'est ça, je pense que tu m'avais demandé où on peut me suivre, où on peut me trouver.
Où on peut t'entendre samedi. Voilà, l'invitation est lancée. Et moi, j'ai même envie de lancer un petit défi là, à tous les animateurs de radio, tous les DJ, tous les programmateurs musicaux qui sont à l'écoute. Malika Tyrolien. Allez le googler et il faut inclure ça. Il faut jouer sa musique. C'est trop bon. Qu'est-ce que vous en dites, les gars? Ouais.
Merci.
DJ Lex. Press play. C'est du Malika Tyrolien.
Ça va jamais assez. Tout ça où j'avouais. Tout petit, il est au vif pour parler. Tout ça où connaît. Quand tu goûtes à dans de l'emmer. Où mettez-vous en terre.
Just there.
et soigner tout ce que j'apprends. Réussite professionnelle, c'est que suivre naturellement. On en est nouvelle.
Micro, micro, pas un check, motherfucker.
Que jure avant mourir,
On vient d'entendre Wesley avec le titre Colonisation. D'ailleurs, Wesley va sortir son prochain album le 3 février prochain. Alors, c'est à surveiller. Il y a beaucoup, beaucoup d'actions au niveau culturel à Montréal. C'est, la diversité, on n'a pas besoin de trop chercher pour en trouver. C'est là, au coin de la rue. Alors, il faut juste ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles et être réceptif. Jennifer Sidney.
Salut, Katie.
Je suis trop contente de te recevoir ici à Planète Montréal du jeudi.
Mais moi, je suis vraiment heureuse d'être parmi vous aujourd'hui.
Alors, c'est ton baptême de l'air?
À ce qui paraît, apparemment.
Jennifer, je t'ai invitée à participer à l'émission, à venir te joindre à l'équipe, parce que je te connais un amour pour les lettres, pour les mots, pour les sons, pour la prose. Tu aimes ça, tu manges ça, et
totalement.
Puis tu vraiment, c'est un de tes moyens d'expression les plus urgents.
Ah oui, totalement.
Est-ce que je me trompe?
Ouais, écoute... J'écris donc je vis, j'écris donc je suis. Donc ça, c'est ce qui me définit.
Nice, on va garder cette tagline-là. Aujourd'hui, pour ta première chronique littéraire, t'as eu envie de nous parler de quoi?
Je veux vous parler d'un massacre, terrible qui s'est passé en Haïti dans les années 60, lors de la dictature duvalieriste. Et en fait, c'est le livre « Le massacre de Jérémy » par les auteurs Gary Klang et Anthony Phelps. Écoutez, j'ai été au lancement samedi dernier et les auteurs étaient là, bien évidemment. Et puis, j'ai été fascinée de voir que l'audience était composée de personnes qui ont été affectées de loin ou de près par la dictature duvalieriste et ça m'a énormément touchée. Il y avait également des tableaux accrochés au mur, des tableaux qui représentent les archives de la SIDICA. Et il y a une phrase que j'ai mémorisée de ces archives, et c'est bien « Permis de tuer est accordé à tout porteur d'armes partisan du régime ». Donc, c'est juste pour vous montrer vraiment le côté sanglant et abominable du régime duvalieriste. Donc, le massacre de Jérémy, écoutez... J'ai été amoureuse de ce livre. Je suis tombée en amour carrément. J'ai commencé à le lire dimanche et j'ai terminé dimanche également. Donc, juste pour vous donner une idée.
Oh, oui, non, tu l'as dévoré.
Je l'ai dévoré. Je suis tombée amoureuse également de Philippe Rivière, le héros du livre. Pour moi, Philippe Rivière, c'est le Django. C'est littéralement le Django de l'époque des années 60. En fait, lui, ce qu'il utilise, c'est vraiment la vengeance. Donc, sa famille a été massacrée lors du massacre de Jérémy, justement. Il était à Paris lorsque ça s'est passé. Sa mère, lorsqu'elle a appris la nouvelle, elle est morte. C'est une nouvelle qu'il a carrément tuée. Donc, pour venger la mort de sa mère, pour venger la mort de sa famille, il décide de se rendre en Haïti, de se camoufler comme étant un journaliste. Et à partir de ce moment-là, débute un thriller sanglant, légèrement érotique aussi, parce qu'il y a beaucoup de sensualité dans ce livre-là. Je trouve qu'il est vraiment rafraîchissant. Donc, pour tous les amateurs de suspense, je vous recommande « Le massacre de Jérémy » de Gary Klang et Anthony Phelps. Et tu sais, Katie, j'ai une question pour les auditeurs aujourd'hui. C'est une sorte de réflexion, en fait. Parce que lorsqu'on regarde, tu sais, dans les années 60, les opposants du parti duvalieriste, ils utilisaient justement le journalisme, d'autres manières également de faire valoir leurs points, leurs ressentiments, le fait qu'ils étaient absolument contre un régime aussi violent. Et Philippe Rivière, dans le fond, il décide de répondre à la violence par la violence. Mais je me demande maintenant, en 2015, là, même quand on regarde les derniers événements qui se sont passés justement de Charlie Hebdo, c'est également la violence qui répond par la violence. La violence des mots, la violence des dessins des chroniqueurs du magazine Charlie Hebdo et la violence qui a été répliquée des extrémistes qui les ont assassinés. Mais je me demande, est-ce qu'un jour, on va être capable de résoudre la violence par quelque chose de plus grand que la violence? C'est cette question-là que je demande à nos auditeurs
aujourd'hui. C'est drôle, c'est une question que je me pose moi-même.
Ouais.
Est-ce que cette violence est vraiment, je veux dire, intrinsèquement dans la nature de l'humain?
Exactement.
Ou c'est quelque chose d'acquis? Si c'est quelque chose qui est malléable, est-ce que c'est quelque chose qui peut être changé? Parce que depuis que le monde est monde,
on répond par la violence.
Voilà.
Et je pense que les guerres ne s'estomperont jamais, si ce n'est que quelques périodes d'accalmie. Ça, c'est ma petite opinion à moi. On dirait que ça fait vraiment partie de la nature de l'humain.
Ah, c'est belle et c'est vraiment dommage, en fait, parce que même lorsqu'on regarde les faits, justement, du duvalérisme, je veux dire, il n'y a pas de justice qui a été faite.
Et il y a quelque chose aussi qui est vraiment caractéristique de l'humain, c'est qu'on a la mémoire courte.
Totalement.
Parce que là, tu relates des événements, l'époque du duvalérisme, je veux dire, c'est la génération de nos parents, c'est pas si loin que
ça. Ma mère n'était même pas née à ce moment-là, tu imagines?
Voilà. Et aujourd'hui, en Haïti, la nouvelle génération, on n'a aucune idée des atrocités qui se sont commises sur leur propre terre.
Totalement.
Et idolâtre un peu Duvalier avec le peu qu'ils connaissent.
Avec le peu qu'ils connaissent. Ouais. Et c'est pour ça que les livres, justement, comme Le massacre de Jérémie, est plus que nécessaire dans vos bibliothèques. Parce que c'est un devoir de mémoire. C'est pour que, justement, des événements comme ça, en passant, Le massacre de Jérémie est basé sur des faits réels. Donc, il y a effectivement eu les massacres de 13 opposants au parti duvalériste. Et je veux dire, c'est des livres comme ça qu'il nous faut. Et pas juste en Haïti, je veux dire, chaque pays a un devoir de mémoire pour les générations à venir, pour qu'on puisse comprendre les violences qui existent dans nos communautés. Parce que le duvalérisme, jusqu'à présent,
On subit les conséquences.
Encore,
oui.
Je veux pas dire que le système présentement en Haïti est au niveau du duvalérisme, mais bon, moi, oui, je l'ai dit.
Mais c'est clair qu'il y a un passé qui influence le présent et c'est ce même présent qui va dicter de quel genre d'avenir on va pouvoir se doter. Donc, c'est très important de pouvoir discuter de ce sujet autour d'œuvres comme celle-là, totalement. Le massacre de Jérémie.
Et les jeunes qui étaient, nous, les jeunes, je trouve que c'est dommage qu'on soit pas autant alerte par rapport à ces événements-là. Le lancement du livre Le massacre de Jérémie, j'ai pas vu beaucoup de jeunes. Et vraiment, il faut qu'on commence à faire beaucoup plus de promotion et tout par rapport à ça, parce que c'est nous, on est la relève.
Ben, je pointe le doigt en ta direction, Jennifer. Avec ta chronique littéraire, on va soulever des montagnes.
Oh,
merci beaucoup.
Merci à toi, Katie.
On rappelle la maison d'édition. Dans quelle librairie on peut le retrouver?
La maison
d'édition. Et les auteurs?
La maison d'édition, c'est Dialogue Nord-Sud. Mm-hmm. J'imagine que c'est disponible dans à peu près toutes les librairies... surtout Olivieri, à mon humble avis. Ça, c'est une bonne question. J'aurais dû me renseigner là-dessus.
Ah, c'est pas grave. On va le googler.
Il faut le googler. Donc, encore une fois, Le massacre de Jérémie, la maison d'édition Dialogue Nord-Sud. L'éditeur est vraiment sympathique. Il s'appelle Karim. Il est très gentil. Et
c'est
les
écrit,
auteurs,
oui.
C'est Gary Klang et Anthony Phelps, deux auteurs haïtiens qui ont quitté Haïti par rapport à toute cette méchanceté gratuite et malhonnête et dérespectante.
Attention à la violence.
Du parti du violence.
Merci beaucoup, Jennifer. Merci.
Merci à toi.
Et bon mois de l'histoire des Noirs. J'ai
merci.
Hâte de voir qu'est-ce que tu vas nous présenter sous le thème du mois de l'histoire des Noirs.
Je vous réserve des belles surprises.
C'est déjà la fin de cette édition de Planète Montréal du jeudi. Je vais vous donner quand même quelques dates à mettre à votre agenda pour les prochains jours, prochaines semaines. Donc, le 31 janvier, si vous le saviez pas, elle était ici à l'émission. Malika Tyrolien performe avec son band en live. Donc, samedi 31 janvier au Beaubar. Cette fin de semaine, c'est l'événement de lancement du Festival FRO 2015. Donc, ça commence samedi le 31 janvier également à 20h à la bibliothèque, à la Grande Bibliothèque de Montréal. J'aimerais aussi vous inviter le 3 février au Bar Pub Saint-Denis. JJ Nice Plus va performer en live également avec son band et également le 21 février à la Place des Arts. Une autre date à mettre à votre agenda, le 7 février, ce sera Miss Afrique, 5e édition. Il y a La Fouine qui s'en vient à Montréal. Il y a tout plein de trucs qui s'en viennent pour le mois de février et le mois de mars. Restez à l'écoute de Planète Montréal du jeudi ainsi que sur la page Facebook de loungeurbain.com et on vous invite aussi à nous suivre, à prendre de nos nouvelles et à suivre notre actualité culturelle et sociale sur le blog loungeurbain.com. Je remercie toute mon équipe, Kate, Madalina, Andréane, Shelby, Jennifer, merci à notre invité Malika Tyrolien, Pierre, mon frère, mon associé, mon bras droit, DJ Licks. Mm-hmm. DJ Rix, on peut suivre tous les samedis au bar Corova sur Saint-Laurent. Alors, si vous êtes amateur de bon beat, c'est là que ça se passe. Mon nom est Kitty, alias Lady Special K. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre édition de Planète Montréal du jeudi.
Ciao!
Bye!
Bye.
Au revoir!
Vous en met plein les yeux et surtout plein les oreilles avec SNL Québec. En direct, une soirée tout en sketch, en humour et en musique.
SNL Québec avec Véronique Dicker, en direct demain 21h à Télé-Québec.
Vous avez des phobies que vous ne pouvez combattre? Des problèmes de sommeil? Vous désirez arrêter de fumer? Contactez Robert Charron, hypnothérapeute. L'hypnothérapie est une science qui, au cours des années, a fait ses preuves. Après quelques rencontres, vous allez combattre ce qui vous empêche d'être bien et de vivre pleinement. Pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous, contactez Robert Charron, hypnothérapeute, au 514-654-1070.
Informez-vous en espagnol. Pulso, le journal des latino-américains à Montréal. Retrouvez Pulso dans une grande partie du commerce latino-américain ou abonnez-vous gratuitement. Pulso.ca. Pulso.ca. Pulso, information en espagnol.
Radio Centre-Ville, 102,3 FM.